Vathek était très aise qu'on le prît sur ce ton, parce qu'il voyait que cela le conduirait à ses abominables fins. Il avait un air affable avec tout le monde, surtout avec ses vizirs et les grands de sa cour. Le lendemain, il les invita à un repas somptueux. Peu à peu, il fit tomber la conversation sur leurs enfants et demanda d'un air de bienveillance qui d'entre eux avait les plus jolis garçons. Aussitôt, chaque père s'empresse à mettre les siens au-dessus de ceux des autres. La dispute s'échauffa. On en serait venu aux mains sans la présence du calife, qui feignit de vouloir en juger par lui-même. Bientôt, on vit arriver une bande de ces pauvres enfants. La tendresse maternelle les avait ornés de tout ce qui pouvait rehausser leur beauté. Mais, tandis que cette brillante jeunesse attirait tous les yeux et tous les cœurs, Vathek l'examina avec une perfide avidité et en choisit 50 pour les sacrifier au Giaour. Alors, avec un air de bonhomie, il proposa de donner à ses petits favoris une fête dans la plaine. Ils devaient, disait-il, se réjouir encore plus que tous les autres du retour de sa santé. La bonté du calife enchante, elle est bientôt connue de tout Samara. On prépare des litières, des chameaux, des chevaux. Femmes, enfants, vieillards, jeunes gens, chacun se place selon son goût. Le cortège se met en marche, suivi de tous les confiseurs de la ville et des faubourgs. Le peuple suit à pied en foule. Tout le monde est dans la joie et pas un ne se ressouvient de ce qu'il en a coûté à plusieurs la dernière fois qu'on avait pris ce chemin. La soirée était belle, l'air frais, le ciel serein. Les fleurs exhalaient leur parfum. La nature en repos semblait se réjouir aux rayons du soleil couchant. Leur douce lumière dorait la cime de la montagne aux quatre sources. Elle en embellissait la descente et colorait les troupeaux bondissants. On n'entendait que le murmure des fontaines, le son des chalumeaux et la voix des bergers qui s'appelaient sur les collines. Les malheureuses victimes qui allaient être immolées dans un instant ajoutaient encore à cette touchante scène. Pleins d'innocence et de sécurité, ces enfants s'avançaient vers la plaine en ne cessant de folâtrer. L'un courait après des papillons, l'autre cueillait des fleurs ou ramassait de petites pierres luisantes. Plusieurs s'éloignaient d'un pas léger pour avoir le plaisir de s'atteindre et de se donner 1000 baisers. Déjà, on découvrait de loin l'horrible gouffre au fond duquel était le portail d'ébène. Semblable à une raie noire, il coupait la plaine par le milieu. Morakanabad et ses confrères le prirent pour un de ces bizarres ouvrages que le calife se plaisait à faire. C'est malheureux, il ne savait pas à quoi il était destiné. Vathek, qui ne voulait point qu'on examinât de trop près le lieu fatal, arrête la marche et fait tracer un grand cercle. La garde des eunuques se détache pour mesurer la lisse destinée aux courses de pied et pour préparer les anneaux que doivent enfiler les flèches. Les 50 jeunes garçons se déshabillent à la hâte. On admire la souplesse et les agréables contours de leurs membres délicats. Leurs yeux pétillent d'une joie qui se répète dans ceux de leurs parents. Chacun fait des vœux pour celui des petits combattants qui l'intéresse le plus. Tout le monde est attentif au jeu de ces êtres aimables et innocents. Le calife saisit ce moment pour s'éloigner de la foule. Il s'avance sur le bord du gouffre et entend, non sans frémir, l'Indien qui disait en grinçant des dents « Où sont-ils? Où sont-ils ?»« Impitoyable Giaour !» répondit Vathek tout troublé. « N'y a-t-il pas moyen de te contenter sans le sacrifice que tu exiges? Ah, si tu voyais la beauté de ces enfants, leur grâce, leur naïveté, tu en serais attendri !» « La peste de ton attendrissement, bavard que tu es !» s'écria l'Indien. « Donne, donne-les vite, ou ma porte te sera fermée à jamais !»« Ne crie donc pas si haut !» repartit le calife en rougissant. « Oh, pour cela j'y consens !» reprit le Giaour avec un sourire d'ogre. « Tu ne manques pas de présence d'esprit. J'aurai patience encore un moment. » Pendant cet affreux dialogue, les jeux étaient dans toute leur vivacité. Ils finirent enfin lorsque le crépuscule gagna les montagnes. Alors le calife, se tenant debout sur le bord de l'ouverture, cria de toutes ses forces : que mes 50 petits favoris s'approchent de moi et qu'ils viennent selon l'ordre du succès qu'ils ont eu dans leur jeu. Au premier des vainqueurs, je donnerai mon bracelet de diamant, au second mon collier d'émeraude, au troisième ma ceinture de topaze, et à chacun des autres quelques pièces de mon habillement jusqu'à mes pantoufles. » À ces paroles, les acclamations redoublèrent. On portait au nu la bonté d'un prince qui se mettait tout nu pour amuser ses sujets et encourager la jeunesse. Cependant, le calife, se déshabillant peu à peu et élevant le bras aussi haut qu'il pouvait, faisait briller chacun des prix. Mais, tandis que d'une main il le donnait à l'enfant qui se hâtait de le recevoir, de l'autre il le poussait dans le gouffre où le giaour, toujours grommelant, répétait sans cesse « Encore, encore !» Cet horrible manège était si rapide que l'enfant qui accourait ne pouvait pas se douter du sort de ceux qui l'avaient précédé. Et, quant aux spectateurs, l'obscurité et la distance les empêchaient de voir. Enfin, Vatek, ayant ainsi précipité la 50e victime, crut que le giaour viendrait le prendre et lui présenter la clé d'or. Déjà, il s'imaginait être aussi grand que Soleiman et n'avoir aucun compte à rendre lorsque la crevasse se ferma à sa grande surprise et qu'il sentit sous ses pas la terre ferme comme à l'ordinaire. Sa rage et son désespoir ne peuvent s'exprimer. Il maudissait la perfidie de l'Indien. Il l'appelait des noms les plus infâmes et frappait du pied comme pour en être entendu. Il se démena ainsi jusqu'à ce qu'étant épuisé, il tomba par terre comme s'il avait perdu le sentiment. Ses vizirs et les grands de la cour, plus près de lui que les autres, crurent d'abord qu'il s'était assis sur l'herbe pour jouer avec les enfants. Mais, une sorte d'inquiétude les ayant saisis, ils s'avancèrent et virent le calife tout seul, qui leur dit d'un air égaré « Que voulez-vous ?»« nos enfants !» s'écrièrent-ils. « Vous êtes bien plaisants, » leur répondit-il, « de vouloir me rendre responsable des accidents de la vie. Vos enfants sont tombés en jouant dans le précipice qui était ici, et j'y serais tombé moi-même si je n'avais fait un saut en arrière. » À ces mots, les pères des 50 enfants poussent des cris perçants que les mères répétèrent d'un octave plus haut. Tandis que tous les autres, sans savoir de quoi on criait, enchérissaient sur eux par des hurlements. Bientôt, on se dit de tous côtés « C'est un tour que le calife nous a joué pour plaire à son maudit giaour. Punissons-le de sa perfidie, vengeons-nous, vengeons le sang innocent. Jetons ce cruel prince dans la cataracte et que sa mémoire même soit anéantie. » Karatis, effrayé par cette rumeur, s'approcha de Morakanabad. « Vizir, lui dit-elle, vous avez perdu deux jolis enfants, vous devez être le plus désolé des pères, mais vous êtes vertueux, sauvez votre maître. » « Oui, madame, répondit le vizir, je vais essayer au péril de ma vie de le tirer du danger où il est. Ensuite, je l'abandonnerai à son funeste destin. Baba Balouk, poursuivit-elle, mettez-vous à la tête de vos eunuques. Écartons la foule, ramenons, s'il se peut, ce malheureux prince dans son palais. Baba Balouk et ses compagnons, pour la première fois, se félicitèrent de ce qu'on les avait mis hors d'état d'être pères. Ils obéirent au vizir, et celui-ci, les secondant de son mieux, vint enfin à bout de sa généreuse entreprise. Alors il se retira pour pleurer à son aise. Dès que le calife fut rentré, Karatis fit fermer les portes du palais. Mais, voyant que l'émeute augmentait et que de tous côtés on vomissait des imprécations, elle dit à son fils « Que vous ayez tort ou raison, n'importe, il faut sauver votre vie. Retirons-nous dans vos appartements. De là, nous passerons dans le souterrain qui n'est connu que de vous et de moi et gagnerons la tour où, avec le secours des muets qui n'en sont jamais sortis, nous tiendrons de reste. Baba Balouk nous croira encore dans le palais et en défendra l'entrée pour son propre intérêt. Alors, sans nous embarrasser des conseils de ce pleureur de Morakanabad, nous verrons ce qu'il y aura de mieux à faire. » Vatek ne répondit pas un seul mot à tout ce que sa mère lui disait et se laissa conduire comme elle voulut. Mais, tout en marchant, il répétait « Où es-tu, horrible giaour? N'as-tu pas encore croqué ses enfants? Où sont tes sabres, ta clé d'or, tes talismans ?» Ces paroles firent deviner à Caratis une partie de la vérité. Quand son fils se fut un peu tranquillisé dans la tour, elle n'eut pas de peine à la tirer tout entière. Bien loin d'avoir des scrupules, elle était aussi méchante qu'une femme peut l'être, et ce n'est pas peu dire. Car ce sexe se pique de surpasser en tout celui qui lui dispute la supériorité. Le récit du calife ne causa donc à Caratis ni surprise ni horreur. Elle fut seulement frappée des promesses du Giaour et dit à son fils « Il faut avouer que ce Giaour est un peu sanguinaire. Cependant, les puissances terrestres doivent être encore plus terribles. Mais les promesses de l'un et les dons des autres valent bien la peine de faire quelques petits efforts. Nul crime ne doit coûter quand de tels trésors en sont la récompense. Cessez donc de vous plaindre de l'Indien. Il me semble que vous n'avez pas rempli toutes les conditions qu'il met à ses services. Je ne doute point qu'il ne faille faire un sacrifice au génie souterrain, et c'est à quoi il nous faudra penser lorsque l'émeute sera apaisée. Je vais rétablir le calme, et je ne craindrai pas d'épuiser vos trésors, puisque nous en aurons bien d'autres. » Cette princesse, qui possédait merveilleusement l'art de persuader, repassa par le souterrain et, s'étant rendue au palais, se montra au peuple par la fenêtre. Elle le harangua, tandis que Baba Balouk jetait de l'or à pleine main. Ces deux moyens réussirent, l'émeute fut apaisée. Chacun retourna chez soi, et Caratis reprit le chemin de la tour. On annonçait la prière du point du jour, lorsque Caratis et Vatek montèrent les innombrables degrés qui conduisent au sommet de la tour, et, quoique la matinée fût triste et pluvieuse, ils y restèrent quelque temps. Cette sombre lueur plaisait à leur cœur méchant. Quand ils virent que le soleil allait percer les nuages, ils firent tendre un pavillon pour se mettre à l'abri de ses rayons. Le calife, harassé de fatigue, ne songea d'abord qu'à se reposer, et, dans l'espérance d'avoir des visions significatives, il se livra au sommeil. De son côté, l'active Caratis, suivie d'une partie de ses muets, descendit pour préparer le sacrifice qui devait se faire la nuit prochaine. Par de petits degrés pratiqués dans l'épaisseur du mur et qui n'étaient connus que d'elle et de son fils, elle descendit d'abord dans des puits mystérieux qui recélaient les momies des anciens pharaons arrachées de leurs tombeaux. Elle se rendit à une galerie où, sous la garde de 50 négresses muettes et borgnes de l'œil droit, on conservait l'huile des serpents les plus venimeux, des cornes de rhinocéros et des bois d'une odeur suffocante, coupés par des magiciens dans l'intérieur des Indes. Sans parler de 1000 autres raretés horribles. Caratis elle-même avait fait cette collection dans l'espérance d'avoir, un jour ou l'autre, quelque commerce avec les puissances infernales qu'elle aimait passionnément et dont elle connaissait le goût. Pour s'accoutumer aux horreurs qu'elle méditait, elle resta quelque temps avec ses négresses qui louchaient d'une manière séduisante du seul œil qu'elles avaient et lorgnaient avec délice les têtes de mort et les squelettes. À mesure qu'on en tirait des armoires, elle faisait des contorsions épouvantables. Et, tout en admirant la princesse, elle glapissait à l'étourdir. Enfin, étouffée par la mauvaise odeur, Caratis fut forcée de quitter la galerie après l'avoir dépouillée d'une partie de ses monstrueux trésors. Cependant, le calife n'avait pas eu les visions qui l'attendaient, mais il avait gagné dans ses régions exaucées un appétit dévorant. Il avait demandé à manger aux muets et, ayant totalement oublié qu'ils étaient sourds, il les battait, les mordait et les pinçait de ce qu'ils ne bougeaient pas. Heureusement pour ces misérables créatures, Caratis vint mettre le holà à une scène si indécente. « Qu'est-ce donc, mon fils ? » dit-elle tout essoufflée. « J'ai cru entendre les cris de 1000 chauves-souris qu'on déniche d'un antre, et ce ne sont que ceux de ces pauvres muets que vous maltraitez. » « En vérité, vous ne méritez pas l'excellente provision que je vous apporte. »« Donnez, donnez !» s'écria le calife. « Je meurs de faim !»« Ma foi, vous auriez un bon estomac, » dit-elle, « si vous pouviez digérer tout ce que j'ai ici. »« Dépêchez-vous !» repartit le calife. « Mais, au ciel, quelles horreurs ! Que voulez-vous faire ? Je suis prêt à vomir !»« Allons, allons !» répliqua Caratis. Ne soyez pas si délicat, aidez-moi à mettre tout ceci en ordre. Vous verrez que les mêmes objets que vous rebutez vous rendront heureux. Préparons le bûcher pour le sacrifice de cette nuit, et ne songez point à manger qu'il ne soit dressé. Ne savez-vous pas que tous les rites solennels doivent être précédés d'un jeûne rigoureux ? Le calife, n'osant rien répliquer, s'abandonna à la douleur et au vent qui commençait à désoler ses entrailles, tandis que sa mère allait toujours son train. On eut bientôt arrangé sur les balustrades de la tour les fioles d'huile de serpent, les momies et les ossements. Le bûcher s'élevait, et en 3 heures il eut 20 coudées de haut. Enfin, les ténèbres arrivèrent. Et Caratis, toute joyeuse, se dépouilla de ses vêtements. Elle battait des mains et brandissait un flambeau de graisse humaine. Les muets l'imitaient, mais Vatek, exténué de faim, ne put y tenir plus longtemps et tomba évanoui. Déjà les gouttes brûlantes des flambeaux allumaient le bois magique, l'huile empoisonnée jetait 1000 feux bleuâtres. Les momies se consumaient et lançaient des tourbillons d'une fumée noire et opaque. Enfin, les flammes gagnant les cornes de rhinocéros, il se répandit une odeur si infecte que le calife revint à lui en sursaut et parcourut d'un œil égaré la scène flamboyante. L'huile enflammée découlait à grands flots et les négresses, qui ne cessaient d'en apporter, joignaient leurs hurlements aux cris de Caratis. Les flammes devinrent si violentes et le poli de l'acier les réfléchissait avec tant de vivacité que le calife, ne pouvant plus en supporter l'ardeur ni l'éclat, se réfugia sous l'étendard impérial. Frappé de la lumière qui éclairait toute la ville, les habitants de Samara se levèrent à la hâte, montèrent sur leurs toits, virent la tour en feu et descendirent à moitié nus sur la place. Leur amour pour leur souverain se réveilla encore dans ce moment, et, croyant qu'il allait être brûlé dans sa tour, ils ne songèrent plus qu'à le sauver. Morakanabad sortit de sa retraite en essuyant ses larmes. Il criait au feu comme les autres. Baba Balouk, dont le nez était plus accoutumé aux odeurs magiques, se doutait que Caratis travaillait à ses opérations et conseillait à tous de rester tranquilles. On le traita de vieux poltron et d'insigne traître, on fit avancer les chameaux et les dromadaires chargés d'eau. Mais comment entrer dans la tour? Pendant qu'on s'obstinait à en forcer les portes, un vent furieux s'éleva du nord-est et répandit au loin la flamme. D'abord le peuple recula, ensuite il redoubla de zèle. Les odeurs infernales des cornes et des momies, se répandant de tous côtés, empestèrent l'air et plusieurs personnes, presque suffoquées, tombèrent à la renverse. Ceux qui étaient restés debout disaient à leurs voisins « Éloignez-vous, vous empoisonnez !» Morakanabad, plus malade que les autres, faisait pitié. Partout on se bouchait le nez, mais rien n'arrêta ceux qui enfonçaient les portes. 140 des plus robustes et des plus déterminés en vinrent à bout. Ils gagnèrent l'escalier et firent bien du chemin dans un quart d'heure. Caratis, que les signes de ses muets et de ses négresses alarmaient, s'avance sur l'escalier, en descend quelques marches, et entend plusieurs voix qui crient « Voici de l'eau !» Comme elle n'était pas mal leste pour son âge, elle regagne vite la plateforme et dit à son fils « Un moment, suspendez le sacrifice, nous allons avoir de quoi le rendre encore plus beau !» Certains, s'imaginant sans doute que le feu était à la tour, ont eu la témérité d'en briser les portes jusqu'à présent inviolables et viennent avec de l'eau. Il faut avouer qu'ils sont bien bons d'avoir oublié tous vos torts, mais qu'importe. Laissons-les monter, nous les sacrifierons au Giaour. Nos muets ne manquent ni de force ni d'expérience. Ils auront bientôt dépêché des gens fatigués. « Soit, répondit le calife, pourvu qu'on finisse et que je dîne. » Ces malheureux ne tardèrent pas à paraître. Essoufflés d'avoir monté si vite 11 000 degrés, au désespoir que leurs seaux fussent presque vides, ils n'étaient pas plus tôt arrivés que l'éclat des flammes et l'odeur des momies offusquèrent tous leurs sens à la fois. Ce fut dommage, car ils ne voyaient pas le sourire agréable avec lequel les muets et les négresses leur passaient la corde au col. Mais tout n'était pas perdu, car ces aimables personnes ne se réjouissaient pas moins d'une telle scène. Jamais on n'étrangla avec plus de facilité. Chacun tombait sans résistance et expirait sans pousser un cri. De sorte que Vatek se trouva bientôt environné des corps de ses plus fidèles sujets qu'on jeta sur le bûcher. Karatis, qui pensait à tout, crut en avoir assez. Elle fit tendre les chaînes et fermer les portes d'acier qui se trouvaient sur le passage. On avait à peine exécuté ces ordres que la tour trembla. Les cadavres disparurent et les flammes, de sombre cramoisi qu'elles étaient, devinrent d'une belle couleur de rose. Une vapeur suave se fit délicieusement sentir. Les colonnes de marbre jetèrent des sons harmonieux et les cornes liquéfiées exhalèrent un parfum ravissant. Karatis, en extase, jouissait d'avance du succès de ses conjurations. Tandis que les muets et les négresses, à qui les bonnes odeurs donnaient la colique, se retirèrent dans leur tanière en grommelant. Dès qu'ils furent partis, la scène changea. Le bûcher, les cornes et les momies firent place à une table magnifiquement servie. On y voyait au milieu d'une foule de mets exquis des flacons de vin et des vases de fagfourie où un sorbet excellent reposait sur la neige. Le calife fondit sur tout cela comme un vautour et dévorait un agneau aux pistaches. Mais Karatis, occupé de tous autres soins, tirait d'une urne de filigrane un parchemin roulé dont on ne voyait pas la fin et que son fils n'avait pas même aperçu. « Finissez donc, glouton !» lui dit-elle d'un ton imposant, « et écoutez les promesses magnifiques qui vous sont faites. » Alors elle lut tout haut ce qui suit. « Vatek, mon bien-aimé, tu as surpassé mes espérances. Mes narines ont savouré le fumet de tes momies, de tes excellentes cornes et surtout de ce sang musulman que tu as répandu sur le bûcher. Lorsque la lune sera dans son plein, sors de ton palais, environné de toutes les marques de ta puissance. Que les chœurs de tes musiciens te précèdent au son des clairons et au bruit des timbales. Fais-toi suivre de l'élite de tes esclaves, de tes femmes les plus chéries, de 1000 chameaux somptueusement chargés, et prends la route d'Istakhar. C'est là que je t'attends. Là, ceint du diadème de Jian Ben Jian, et nageant dans toutes sortes de délices, les talismans des Soleimans, les trésors des sultans pré-adamites te seront livrés. Mais malheur à toi si dans ta route tu acceptes quelque asile. » Le calife, nonobstant son luxe ordinaire, n'avait jamais si bien dîné. Il se laissa aller à la joie que lui inspiraient de si bonnes nouvelles et but de nouveau. Karatis ne haïssait pas le vin et faisait raison à toutes les rasades qu'il portait par ironie à la santé de Mahomet. Cette perfide liqueur acheva de les remplir d'une confiance impie. Ils blasphémaient. L'âne de Balaam, le chien des sept dormants et les autres animaux qui sont dans le paradis du saint prophète devinrent le sujet de leur scandaleuse plaisanterie. En ce bel état, ils descendirent gaiement les 11 000 degrés, se moquant des faces inquiètes qu'ils voyaient sur la place, à travers les soupiraux de la tour, gagnèrent le souterrain et arrivèrent dans les appartements royaux. Baba Balouk s'y promenait d'un air tranquille en donnant ses ordres aux eunuques qui mouchaient les bougies et peignaient les beaux yeux des circassiennes. Il n'eut pas plutôt aperçu le calife qu'il dit « Ah, je vois bien que vous n'êtes pas brûlé, je m'en doutais !»« Que nous importe ce que tu as pensé ou ce que tu penses ?» s'écria Karatis. « Va, cours dire à Morakanabat que nous voulons lui parler, et surtout ne t'arrête pas pour faire tes insipides réflexions. » Le grand vizir arriva sans délai, Vatek et sa mère le reçurent avec beaucoup de gravité, lui dirent d'un ton plaintif que le feu du sommet de la tour était éteint, mais que par malheur il en avait coûté la vie aux braves gens qui étaient venus à leur secours. « Encore des malheurs !» s'écria Morakanabad en gémissant. « Ah, commandeur des fidèles, notre saint prophète est sans doute irrité contre nous, c'est à vous à l'apaiser !» « Nous l'apaiserons de reste, » répondit le calife avec un sourire qui n'annonçait rien de bon. « Vous aurez assez de loisirs pour vaquer à vos prières. Ce pays m'abîme la santé, je veux changer d'air. La montagne aux quatre sources m'ennuie, il faut que je boive du ruisseau de Roknabad et me rafraîchisse dans les beaux vallons qui l'arrosent. En mon absence, vous gouvernerez mes états d'après les conseils de ma mère et aurez soin de lui fournir tout ce qu'elle désirera pour ses expériences. » car vous savez bien que notre tour est remplie de choses précieuses pour les sciences. » La tour n'était guère du goût de Morakanabad. Sa construction avait épuisé les trésors prodigieux et il n'y avait vu porter que des négresses, des muets et de vilaines drogues. Il ne savait non plus que penser de Karatis qui prenait toutes les couleurs comme le caméléon. Sa maudite éloquence avait souvent mis le pauvre musulman aux abois. Mais, si elle ne valait pas grand-chose, son fils était encore pire et il se réjouissait d'en être délivré. Il alla donc calmer le peuple et préparer tout pour le voyage de son maître. Vatek, dans l'espoir de plaire davantage aux esprits du palais souterrain, voulait que son voyage fût d'une magnificence inouïe. Pour cet effet, il confisqua à droite et à gauche les biens de ses sujets, pendant que sa digne mère visitait les harems et les dépouillait de leurs pierreries. Toutes les couturières, toutes les brodeuses de Samara et des autres grandes villes à 50 lieues à la ronde travaillaient sans relâche aux palanquins, aux sofas, aux canapés et aux litières qui devaient embellir le train du monarque. On enleva toutes les belles toiles de Masulipatan et on employa tant de mousseline pour enjoliver Baba Balouk et les autres eunuques noirs qu'il n'en restait pas une aune dans tout l'Irak babylonien. Pendant que ces préparatifs se faisaient, Karatis donnait de petits soupers pour se rendre agréable aux puissances ténébreuses. Les dames les plus fameuses par leur beauté y étaient invitées. Elles recherchaient surtout les plus blanches et les plus délicates. Rien n'était aussi élégant que ces soupers. Mais, lorsque la gaieté devenait générale, ces eunuques faisaient couler sous la table des vipères et y vidaient des pots remplis de scorpions. On pense bien que tout cela mordait à merveille. Karatis faisait semblant de ne pas s'en apercevoir et personne n'osait bouger. Lorsqu'elle voyait que les convives allaient expirer, elle s'amusait à panser quelques plaies avec une excellente thériaque de sa composition, car cette bonne princesse avait en horreur l'oisiveté. Vatek n'était pas aussi laborieux que sa mère. Il passait son temps à tirer parti des sens dans les palais qui leur étaient dédiés. On ne le voyait plus ni au divan, ni à la mosquée. Et pendant qu'une moitié de Samara suivait son exemple, l'autre gémissait des progrès de la corruption. Sur ces entrefaites revint l'ambassade qu'on avait envoyée à la Mecque dans des temps plus pieux. Elle était composée des plus révérends mollahs. Leur mission était parfaitement remplie et ils apportaient un de ces précieux balais qui avait nettoyé le sacré Kaaba. C'était un présent vraiment digne du plus grand prince de la terre. Le calife se trouvait dans ce moment retenu en un lieu peu convenable pour recevoir des ambassadeurs. Il entendit la voix de Baba Balouk qui criait derrière les portières « Voici l'excellent Idriss al-Shafei et le séraphique Mutaheddin qui apportent le balai de la Mecque et qui, avec des larmes de joie, désirent ardemment de le présenter à votre majesté. » « Comporte ce balai ici, » dit Vatek. « Il peut y être de quelque utilité. »« Comment ?» répondit Baba Balouk hors de lui. « Obéis, » reprit le calife, « car c'est de ma volonté suprême. C'est ici et nulle autre part que je veux recevoir ces bonnes gens qui te mettent en extase. » L'eunuque s'en alla en murmurant et dit au vénérable cortège de le suivre. Une sainte joie se répandit parmi ces respectables vieillards et, quoique fatigués de leur long voyage, ils suivirent Baba Balouk avec une agilité qui tenait du miracle. Ils enfilèrent les augustes portiques et trouvaient bien flatteur que le calife ne les reçût pas, comme des gens ordinaires, dans la salle d'audience. Bientôt, ils parvinrent dans l'intérieur du sérail où, à travers de riches portières de soie, ils crurent apercevoir de grands beaux yeux bleus et noirs qui allaient et venaient comme des éclairs. Pénétrés de respect et d'étonnement, et pleins de leur mission céleste, ils s'avançaient en procession vers de petits corridors qui semblaient n'aboutir à rien, et les conduisaient à cette petite cellule où le calife les attendait. « Le commandeur des fidèles serait-il malade ? » disait tout bas Idriss al-Shafei à son compagnon. « Il est sans doute à son oratoire, » répondit Al-Mutaheddin. Vatek, qui entendait ce dialogue, leur cria. « Que vous importe où je suis ? Avancez toujours !» Alors il sortit la main à travers la portière et demanda le sacré balai. Chacun se prosterna avec respect, aussi bien que le corridor le permit, et même dans un assez beau demi-cercle. Le respectable Idriss al-Shafei tira le balai des linges brochés et parfumés qui en défendaient la vue aux yeux du vulgaire, se détacha de ses confrères et s'avança pompeusement vers le prétendu oratoire. De quelle surprise, de quelle horreur ne fut-il pas saisi ? Vatek, avec un rire moqueur, lui ôta le balai qu'il tenait d'une main tremblante et, fixant quelques toiles d'araignées suspendues au plancher azuré, il les balaya et n'en laissa pas une seule. Les vieillards pétrifiés n'osaient enlever leur barbe de dessus la terre. Ils voyaient tout, car Vatek avait négligemment tiré le rideau qui les séparait de lui. Leurs larmes mouillaient le marbre. Al-Mutaïdin s'évanouit de dépit et de fatigue, pendant que le calife, se laissant aller à la renverse, riait et battait des mains sans miséricorde. « Mon cher Noirot, » dit-il enfin à Baba Balouk, « va régaler ces bonnes gens de mon vin de Shiraz. Puisqu'ils peuvent se vanter de mieux connaître mon palais que personne, on ne saurait leur faire trop d'honneur. » En disant ces mots, il leur jeta le balai au nez et s'en alla rire avec Karatis. Baba Balouk fit son possible pour consoler les vieillards, mais deux des plus faibles en moururent sur le champ. Les autres, ne voulant plus voir la lumière, se firent porter dans leur lit, d'où ils ne sortirent jamais. La nuit suivante, Vatek et sa mère montèrent au haut de la tour pour consulter les astres sur le voyage. Les constellations étant dans un aspect des plus favorables, le calife voulut jouir d'un spectacle aussi flatteur. Il soupa gaiement sur la plateforme, encore noircie de l'affreux sacrifice. Pendant le repas, on entendit de grands éclats de rire qui retentissaient dans l'atmosphère et il en tira le plus favorable augure. Tout était en mouvement dans le palais. Les lumières ne s'éteignaient pas de toute la nuit. Le bruit des enclumes et des marteaux, la voix des femmes et de leurs gardiens qui chantaient en brodant, tout cela interrompait le silence de la nature et plaisait infiniment à Vatek, qui croyait déjà monter en triomphe sur le trône de Soleiman. Le peuple n'était pas moins content que lui. Chacun mettait la main à l'œuvre pour hâter le moment qui devait le délivrer de la tyrannie d'un maître si bizarre. Le jour qui précéda le départ de ce prince insensé, Karatis crut devoir lui renouveler ses conseils. Elle ne cessait de répéter les décrets du parchemin mystérieux qu'elle avait appris par cœur et recommandait surtout de n'entrer chez qui que ce fût pendant le voyage. « Je sais bien, lui disait-elle, que tu es friand de bons plats et de jeunes filles, mais contente-toi de tes anciens cuisiniers qui sont les meilleurs du monde, et souviens-toi que dans ton sérail ambulant, il y a pour le moins 3 douzaines de jolis visages auxquels Baba Balouk n'a pas encore levé le voile. Si ma présence n'était pas nécessaire ici, je veillerais moi-même à ta conduite. J'aurais grande envie de voir ce palais souterrain rempli d'objets intéressants pour les gens de notre espèce. » Il n'est rien que j'aime autant que les cavernes. Mon goût pour les cadavres et les momies est décidé et je gage que tu trouveras la quintessence de ce genre. Ne m'oublie donc pas et dès le moment que tu seras en possession de talismans qui doivent te donner le royaume des métaux parfaits et t'ouvrir le centre de la terre, ne manque pas d'envoyer ici quelques génies de confiance pour me prendre avec mon cabinet. L'huile de ces serpents que j'ai pincée jusqu'à la mort sera un fort joli présent pour notre Giaour, qui doit aimer ces sortes de friandises. » Lorsque Karatis eut fini ce beau discours, le soleil se coucha derrière la montagne aux 4 sources et fit place à la lune. Cet astre, alors dans son plein, paraissait d'une beauté et d'une circonférence extraordinaire aux yeux des femmes, des eunuques et des pages qui brûlaient de voyager. La ville retentissait de cris de joie et de fanfares. On ne voyait que plumes flottantes sur tous les pavillons et qu'aigrettes brillant à la douce clarté de la lune. La grande place ne ressemblait pas mal à un parterre émaillé des plus belles tulipes de l'Orient. Le calife, en habit de cérémonie, s'appuyant sur son vizir et sur Baba Balouk, descendit la grande rampe de la tour. La multitude entière était prosternée et les chameaux magnifiquement chargés s'agenouillaient devant lui. Ce spectacle était superbe, et le calife lui-même s'arrêta pour l'admirer. Tout était dans un silence respectueux. Il fut pourtant un peu troublé par les cris des eunuques de l'arrière-garde. Ses vigilants serviteurs avaient remarqué que quelques cages à dames penchaient trop d'un côté. Certains gaillards s'y étaient adroitement glissés, mais on les en dénicha bien vite avec de bonnes recommandations aux chirurgiens du sérail. D'autres petits événements n'interrompirent pas la majesté de cette auguste scène. Vatek salua la lune d'un air d'intelligence, et les docteurs de la loi furent scandalisés de cette idolâtrie, ainsi que les vizirs et les grands rassemblés pour jouir des derniers regards de leur souverain. Enfin, les clairons et les trompettes donnèrent, du sommet de la tour, le signal du départ. Quoique parfaitement d'accord, on crut pourtant y remarquer quelques dissonances. C'était Karatis qui chantait des hymnes aux Giaours et dont les négresses et les muets faisaient la basse continue. Les bons musulmans, croyant entendre le bourdonnement de ces insectes nocturnes qui sont de mauvais présages, supplièrent Vatek d'avoir soin de sa personne sacrée. On arbore le grand étendard du califat. 20 000 lances brillent à sa suite, et le calife, foulant majestueusement aux pieds les tissus d'or étendus sur son passage, monte en litière aux acclamations de ses sujets. Alors la marche s'ouvrit dans le plus bel ordre et avec un si grand silence qu'on entendait chanter les cigales dans les buissons de la plaine de Catoul. On fit si bonne lieue avant l'aurore et l'étoile du matin étincelait encore dans le firmament quand ce nombreux cortège arriva au bord du Tigre où l'on dressa les tentes pour se reposer le reste de la journée. 3 jours s'écoulèrent de la même manière. Le 4e, le ciel en courroux éclata de 1000 feux. La foudre faisait un fracas épouvantable et les circassiennes tremblantes embrassaient leur vilain gardien. Le calife commençait à regretter le palais d'essence. Il avait grande envie de se réfugier dans le gros bourg de Rolchifar, dont le gouverneur était venu lui offrir des rafraîchissements. Mais, ayant regardé ses tablettes, il se laissa intrépidement mouiller jusqu'aux os malgré les instances de ses favorites. Son entreprise lui tenait trop à cœur et ses grandes espérances soutenaient son courage. Bientôt le cortège s'égara. On fit venir les géographes pour savoir où l'on était, mais leurs cartes trempées étaient dans un état aussi piteux que leur personne. D'ailleurs, on n'avait point fait de long voyage depuis Haroun al-Rachid. On ne savait donc plus de quel côté se diriger. Vatek, qui avait de grandes connaissances de la situation des corps célestes, ne savait où il en était sur la terre. Il grondait plus fort encore que le tonnerre et lâchait quelquefois le mot de potence qui ne flattait pas bien agréablement les oreilles littéraires. Enfin, ne voulant plus suivre que ses idées, il ordonna de traverser les rochers escarpés et de prendre un chemin qu'il croyait devoir le conduire en 4 jours à Rocknabad. On eut beau faire des remontrances, son parti était pris. Les femmes et les eunuques, qui n'avaient jamais rien vu de pareil, frémissaient à l'aspect des gorges des montagnes et faisaient des cris pitoyables en voyant les horribles précipices qui bordaient le sentier rapide où l'on était. La nuit tomba avant que le cortège eût atteint le sommet du plus haut rocher. Alors, un vent impétueux mit en pièces les rideaux des palanquins et des cages et laissa les pauvres dames exposées à toutes les fureurs de l'orage. L'obscurité du ciel augmentait la terreur de cette nuit désastreuse. Aussi n'était-ce que miaulement des pages et pleurs des demoiselles. Pour surcroît de malheur, on entendit des rugissements effroyables, et bientôt on aperçut dans l'épaisseur des forêts des yeux flamboyants qui ne pouvaient être que ceux de diables ou de tigres. Les pionniers qui préparaient le chemin du mieux qu'ils pouvaient et une partie de l'avant-garde furent dévorés avant que de pouvoir se reconnaître. La confusion était extrême. Les loups, les tigres et les autres animaux carnassiers, invités par leurs compagnons, accouraient de toutes parts. On entendait partout craquer des os et dans l'air un épouvantable battement d'ailes, car les vautours commençaient à se mettre de la partie. L'effroi parvint enfin au grand corps de troupes qui entourait le monarque et son sérail, et qui était à 2 lieues de distance. Vatek, choyé par ses eunuques, ne s'était encore aperçu de rien. Il était mollement couché sur des coussins de soie dans son ample litière. Et, pendant que deux petits pages, plus blancs que les mailles de Pharangeston, lui chassaient les mouches, il dormait d'un profond sommeil et voyait briller les trésors de Soleiman dans ses rêves. Les clameurs de ses femmes le réveillèrent en sursaut, et, au lieu du Giaour avec sa clé d'or, il vit Baba Balouk tout transi et consterné. « Sire !» s'écria le fidèle serviteur du plus puissant des monarques. « Le malheur est à son comble. Les bêtes féroces, qui ne vous respectaient pas plus qu'un âne mort, sont tombées sur vos chameaux. 30 des plus richement chargés ont été dévorés avec leurs conducteurs. Vos boulangers, vos cuisiniers et ceux qui portaient vos provisions de bouche ont éprouvé le même sort. Et si notre saint prophète ne nous protège pas, nous ne mangerons plus de notre vie. » À ce mot de manger, le calife perdit toute contenance. Il hurla et se donna de grands coups. Baba Balouk, voyant que son maître avait tout à fait perdu la tête, se boucha les oreilles pour éviter au moins le tintamarre du sérail. Et comme les ténèbres augmentaient et que la rumeur devenait toujours plus grande, il prit un parti héroïque. « Allons, mesdames et mes confrères » cria-t-il de toutes ses forces. « Mettons la main à l'œuvre, battons le briquet au plus vite. Il ne sera pas dit que le commandeur des vrais croyants serve de pâture à des animaux infidèles. » Quoiqu'il n'y eût pas mal de capricieuses et de revêches parmi ces belles, toutes furent soumises dans cette occasion. En un clin d'œil, on vit paraître des feux dans toutes les cages. 10 000 flambeaux furent allumés sur le champ. Tout le monde s'arme de gros cierges et le calife lui-même en fait autant. Des étoupes trempées dans l'huile et allumées au bout de longues perches jetaient tant d'éclats que les rochers paraissaient éclairés comme en plein jour. L'air était rempli de tourbillons d'étincelles et le vent les chassant partout, le feu prit à la fougère et aux broussailles. Dans peu, l'incendie fit des progrès rapides. On vit ramper de toutes parts des serpents au désespoir et qui abandonnaient leur demeure avec des sifflements effroyables. Les chevaux, le nez au vent, hennissaient, battaient du pied et se ruaient sans quartier. Une des forêts de cèdres qu'on côtoyait alors s'embrasa et les branches qui pendaient sur le chemin communiquèrent les flammes aux fines mousselines et aux belles toiles qui couvraient les cages des dames. Et elles furent obligées d'en sortir, au hasard de se rompre le col. Vatek, vomissant 1000 blasphèmes, fut forcé, tout comme les autres, de mettre ses pieds sacrés à terre. Jamais rien de pareil n'était arrivé. Les dames qui ne savaient pas se tirer d'affaire tombaient dans la fange, pleines de dépit, de honte et de rage. « Moi marcher ?» disait l'une. « Moi mouiller mes pieds ?» disait l'autre. « Moi, salir mes robes !» s'écriait une troisième. « Exécrable Baba Balouk » disaient-elles toutes à la fois. « Ordure d'enfer ! Qu'avais-tu besoin de flambeaux ? Plutôt que les tigres nous eussent dévorés, que d'être vus dans l'état où nous sommes ! Nous voilà perdus pour jamais ! Il n'y aura pas de portefaix dans l'armée, ni de décrotteurs de chameaux qui ne puissent se vanter d'avoir vu une partie de notre corps, et qui pisaient nos visages !» En disant ces mots, les plus modestes se jetèrent la face dans les ornières. Celles qui avaient un peu plus de courage en voulurent à Baba Balouk. Mais lui, qui les connaissait et qui était fin, s'enfuit à toutes jambes avec ses confrères en secouant leurs torches et battant des timbales. L'incendie répandit une lumière aussi vive que le soleil au plus beau jour de la canicule et il faisait chaud à proportion. Ô comble d'horreur ! On voyait le calife embourbé comme un simple mortel. Ses sens commencèrent à s'engourdir. Il ne pouvait plus avancer. Une de ses femmes éthiopiennes, car il en avait une grande variété, eut pitié de lui, le prit à bras-corps, le chargea sur ses épaules, et, voyant que le feu gagnait de tous côtés, elle partit comme un trait, malgré le poids de son fardeau. Les autres dames, auxquelles le danger avait rendu l'usage de leurs jambes, la suivirent de toutes leurs forces. Les gardes se mirent à galoper après, et les palefreniers faisaient courir les chameaux en se culbutant les uns sur les autres. On arriva enfin au lieu où les bêtes féroces avaient commencé le carnage. mais elles avaient trop d'esprit pour ne s'être pas retirées au bruit d'un si horrible vacarme, ayant, du reste, soupé à merveille. Baba Balouk se saisit pourtant de deux ou trois des plus grasses et qui s'étaient tant remplies qu'elles ne pouvaient plus bouger. Il se mit à les écorcher proprement et, comme on était déjà assez éloigné de l'embrasement pour que la chaleur n'en fût que médiocre et agréable, on se détermina à s'arrêter dans l'endroit où l'on était. On ramassa les lambeaux d'étoiles peintes, on enterra les débris du repas des loups et des tigres. On se vengea sur quelques douzaines de vautours qui en avaient leur sou. Et, après avoir fait le dénombrement des chameaux qui préparaient tranquillement du sel ammoniaque, on encagea tant bien que mal les dames et on dressa la tente impériale sur le terrain le moins raboteux. Vatek s'étendit sur ses matelas de duvet et commençait à se refaire des secousses de l'Éthiopienne. C'était une rude monture. Le repos ramena son appétit accoutumé. Il demanda à manger, mais hélas, ses pains délicats qu'on cuisait dans des fours d'argent pour sa bouche royale, ses gâteaux friands, ses confitures ambrées, ses flacons de vin de Shiraz, ses porcelaines remplies de neige, ses excellents raisins qui croissent sur les bords du Tigre, tout avait disparu. Baba Balouk n'avait à offrir qu'un gros loup rôti, des vautours à la daube, des herbes amères, des champignons vénéneux, des chardons et des racines de mandragore qui ulcéraient la gorge et mettaient la langue en pièces. Pour toute liqueur, il ne possédait que quelques fioles de méchante eau-de-vie que les marmitons avaient cachées dans leur babouche. On conçoit qu'un repas aussi détestable dut mettre Vatek au désespoir. Il se bouchait le nez et mâchait avec des grimaces affreuses. Cependant, il ne mangea pas mal et s'endormit pour mieux digérer.